Europe 1, près de chez vous.
Bonjour Christophe Pirel.
Bonjour Thierry Baptiste.
Notre pays est en train de vivre une grave crise depuis 2 mois. Vous qui avez été au cœur du système de la République il y a encore quelques années, comment vous l'analysez ?
J'analyse le fait qu'on n'était pas prêt à la crise à plusieurs niveaux. D'abord parce que nos hôpitaux, parce que notre système de santé ne s'est pas adapté ces dernières années à la possibilité d'avoir ces événements. Alors effectivement, personne n'est devin et donc personne ne peut les anticiper. Mais je pense que les moyens qui ont été mis ces dernières années sur la santé, sur le système de santé, sont insuffisants. Mais c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'organisation et de repenser notre organisation. Ça fait des années qu'on considère que il faut des administratifs, des technos, des gens qui savent compter, regarder des tableaux Excel pour diriger les hôpitaux, diriger des agences régionales de santé qui sont celles qui vont prendre les décisions dans ces moments de crise. Et pourtant, en fait, dans ces moments-là, on a besoin de soignants, en fait. On a besoin de gens qui savent ce que c'est que des crises sanitaires, comment les gérer, et qui connaissent les patients, comment ils réagissent, etc. Et je pense que nous avons un système aujourd'hui de santé qui est bien trop technocratique, administratif, et je crois qu'il va falloir aussi changer ça. Il faut donner des moyens aux soignants, il faut donner des moyens aux infirmiers, aux médecins, à tous ceux qui, aujourd'hui, sont ceux qui ont été au front, et qui, en fait, depuis des mois et des mois, disaient qu'ils n'avaient pas les moyens pour assurer ne serait-ce que le quotidien. Alors, assurer une crise, évidemment, ils n'y étaient pas prêts. Et donc, il faut se redonner les moyens de repenser notre système de santé. C'est une réflexion globale qu'il faut avoir. Et nous, dans notre territoire des Hautes-Alpes, qui est en plus isolé, qui a des difficultés parce que on a une population plus petite que d'autres, on a tendance à nous supprimer beaucoup, beaucoup de moyens. Et il va falloir être intelligent pour la suite des choses, afin d'éviter ces moments où on se rend compte que finalement ce système qui nous protège, il est indispensable au moment où ça se présente. Et je pense qu'on a plein de sujets de ce type-là, mais vous savez, je crois qu'on n'était pas prêt industriellement aussi. Quand on a délocalisé l'intégralité de notre industrie et qu'on n'est plus capable de fabriquer ni un masque, ni une molécule de médicament, ni un respirateur pour nos hôpitaux, on a un sérieux souci. Quand je défendais la question de la souveraineté économique du protectionnisme européen de l'industrie, beaucoup de gens pensaient que j'étais fou. Mais en fait, je crois que la vérité, elle est là. Il faut se repencher sur notre système global, de savoir comment on est interdépendant ou non, quelle est notre capacité à être autonome, quelle est notre capacité à être souverain dans notre façon de produire. Et là, on a vu toutes les faiblesses du système dans lequel on est.
Un des effets justement de cette crise, c'est le Ségur de la santé qui a été lancé hier par le Premier ministre et le ministre Olivier Véran, avec des mesures importantes qui vont être prises.
Oui, mais j'attends de voir lesquelles. Et je pense qu'on ferait une erreur si on repensait les choses que par le bout de la lorgnette. C'est-à-dire que si on se disait au niveau de la santé, il va falloir augmenter les infirmiers. C'est une chose. Il faut le faire, sans aucun doute. Mais si on ne repense pas notre système de façon globale, de savoir comment on couvre un territoire, quelle est la capacité d'un hôpital à accueillir au quotidien, est-ce que le système de santé doit aussi s'adapter à des réalités différentes en fonction des endroits et je crois qu'on n'aura pas répondu à la question qui est de savoir comment on a demain un système de santé efficace. Ça, on a la chance d'avoir un pays de service public. Alors, beaucoup de gens nous ont dit pendant très longtemps, le service public, c'est mort, il faut arrêter la dépense publique. En fait, sans dépense publique, on n'est pas capable d'affronter ces moments. Les 10 millions de personnes qui sont au chômage partiel, qui ont été au chômage partiel, ils ont été pris en charge par un État qui est hyper protecteur. Et je rappelle que dans d'autres États comme les États-Unis, vous n'avez pas ce système protecteur et les gens ont perdu leurs emplois. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un État qui nous couvre et qui protège et qui est présent. Et moi, ma crainte, si vous voulez, c'est que demain, la crise s'arrête et que tous ces gens, en fait, qui vont connaître quand même des situations difficiles de crise, qui vont connaître des situations où on ne les verra que moins ou plus, que ça soit dans le système de santé ou que ça soit au quotidien pour des personnes qui sont en difficulté, ceux qui vont perdre leur emploi ou ceux qui sont isolés déjà aujourd'hui, ces personnes-là, j'ai peur qu'on les regarde et qu'on les oublie et que demain, en fait, on ait une gestion comme d'habitude. Une fois qu'elle est plus visible, on se repose les mauvaises questions. Donc, moi, j'espère que les pouvoirs publics j'espère que toute personne qui l'a vécu en tant que ministre ou premier ministre va être échaudée par la situation. Mais il est certain que si vous n'êtes pas capable de prendre du recul et de poser les choses sur le long terme sans être populiste, nous aurons une difficulté. Donc j'attends ça. Et le Ségur, il devra répondre à ces questions-là. Moi, je ne sais pas aujourd'hui si le gouvernement actuel, qui a été celui qui a sabré quand même fortement sur les systèmes de santé, qui a supprimé l'ISF, qui a supprimé en fait aussi des ressources fortes de l'État, qui est un État protecteur, c'est ce que je disais précédemment. Si vous lui supprimez les recettes, si vous êtes continué à avoir cette vision en fait à la petite semaine, eh ben je pense que on risque de ne pas répondre en profondeur à la situation de crise que l'on a connue et que nous pourrions reconnaître à nouveau dans les années à venir.
Christophe Pierrel, François Hollande s'est déconfiné en douceur hier. Il était l'invité de la matinale de France Inter et il a fait amende honorable en reconnaissant sa part de responsabilité dans la situation actuelle des hôpitaux.
Oui, mais c'est plutôt bien d'ailleurs d'être capable de se dire en tant que responsable politique. J'ai pu faire des erreurs, on a pu faire des erreurs collectivement parce qu'il est.
Il y en a peu qui le disent quand même. Hein.
Pardon.
Il y en a peu qui le disent.
Oui, il y en a peu qui le disent, c'est certain, et c'est regrettable d'ailleurs. Mais je pense qu'on a aussi dans ces moments-là besoin d'entendre les responsables politiques dire la vérité. Et donc dire je me suis trompé, je pense que c'est une chose qui est saine. Je pense que certains devraient s'en inspirer. Je pense aujourd'hui à certains représentants du gouvernement qui sont incapables de dire « Oui, on s'est trompé sur les masques. Oui, on n'avait pas assez. Oui, on a fait ceci. On sait plus des raisons. » Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de sécurité. Et la sécurité, elle passe aussi par la parole politique. La parole politique, elle est assez discréditée dans des moments où le porte-parole du gouvernement change d'avis du jour au lendemain. Parce que la situation a changé ou parce que effectivement on a retrouvé des masques. Ça, ça a été effectivement sans doute aussi un des symptômes de cette crise.
Oui.
La parole politique, elle est fondamentale dans un moment où c'est eux qui prennent les décisions. Quand ils prennent les décisions, il faut qu'on se sente en confiance. Et je ne crois pas aujourd'hui que nous soyons sentis totalement en confiance dans la façon dont on a appréhendé les choses. Vous savez, la reprise des écoles, par exemple, on a tout de suite cette impression que le gouvernement voulait absolument répondre à la demande d'Emmanuel Macron de reprendre l'école le 11 mai. Au final, on a repris l'école dans des conditions qui sont hallucinantes. On est en train de faire école aujourd'hui avec un apprentissage unique des gestes barrières, un apprentissage de la peur. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'enseignement autre. Moi, ça m'inquiète parce que je me dis, ça veut dire qu'on a remis les enfants pour les remettre à l'école. C'est encore et toujours une situation où finalement c'est l'effet d'annonce qui prédomine sur la réalité des choses. Et je crois qu'en fait personne n'était prêt à reprendre des enfants dans les écoles, que les communes du coup se sont acharnées à essayer de trouver des solutions et ça est encore une fois retombé sur les élus locaux. Et les vrais responsables, ceux qui sont au niveau étatique, n'avaient pas pensé l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des possibilités. Et je crois qu'aujourd'hui on n'est toujours pas dans une situation. Vous savez, il y a toujours les lycéens qui ne sont pas rentrés, il y a toujours une situation où vous avez une partie des écoliers qui n'ont pas le droit d'aller à l'école parce qu'ils ne sont pas prioritaires, etc., etc. Donc l'école de la République, elle en prend quand même un sérieux coup. Et donc dans cette situation-là, on aurait peut-être dû se poser d'autres questions, d'autres façons de faire et y réfléchir peut-être un tout petit peu plus longtemps avant d'essayer de répondre à un effet d'annonce qui était que le 11 mai, tout le monde devait retourner à l'école. Voilà, je crois qu'on est dans une situation où le pouvoir politique, aujourd'hui, et notamment national, il est hélas affaibli parce que il n'est pas cohérent dans l'ensemble de sa stratégie. Et on aurait voulu sans doute, je pense tous, y voir plus clair dans la façon d'avancer avec lui. Je crois que cette défiance-là, elle est quand même aussi déjà très propre à la France. On a cette situation où on attend beaucoup de l'État parce que c'est un État protecteur. Et donc dans cette situation-là, on a besoin aussi de se revoir où on va. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, que ce soit les citoyens ou les élus locaux, on est tous bien compris là où on allait.
Mais sans la jouer professeur, Christophe Pirel, quels ont été les bons points, s'il y en a, hein, et les mauvais points à distribuer à l'exécutif, parce que pour l'instant, on a surtout les mauvais points. Il y a eu des bons points?
Oui, je pense que notamment le fait de ne pas avoir tergiversé sur la possibilité pour les entreprises de mettre les salariés en chômage partiel. Je pense que les plans aussi, notamment d'emprunt de trésorerie, pour les entreprises qui permettent de donner un peu d'air, ont été pour tous une bonne nouvelle. Donc, je crois qu'il y a, sur le principe économique, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites qui ont permis aux entreprises
d'amortir,
d'avoir l'air suffisant pour passer un peu le cap.
Et d'amortir.
Après, Pardon, oui, après, je pense que ça tarde un tout petit peu maintenant à redémarrer totalement, et je pense qu'on aurait besoin d'y voir plus clair, notamment pour les restaurateurs, pour le personnel, enfin pour toutes les entreprises du tourisme dont on vit ici dans le département. Je pense qu'on aurait besoin effectivement d'avoir plus de visibilité sur ce qui va se profiler sur une saison qui est importante. J'ai eu la chance d'aller à la Grave ce week-end, et c'est vrai que les commerçants qui ont connu la crise du Chambon il y a 5 ans et qui aujourd'hui se retrouvent à nouveau dans une situation où ils n'ont personne, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Cette situation, elle est dure, elle est très dure, et pour des entreprises qui sont déjà affaiblies par des situations de crise qu'ils ont pu connaître, c'est valable pour le Chambon, mais c'est valable dans d'autres endroits, ne pas avoir de visibilité, c'est sans doute le plus difficile pour eux. Et donc, je pense que maintenant que la situation, entre guillemets, d'urgence commence à passer, il va falloir qu'on donne de la visibilité à nos professionnels pour savoir où on va. Voilà.
Il y a des accords hein, qui auraient commencé à aboutir à partir de dimanche entre Matignon et notamment les restaurateurs pour la réouverture le 2 juin.
Oui, oui, oui. Et puis je m'inquiète toujours, vous savez, quand tout part, par exemple, d'un accord entre le président de la République et Philippe de Villiers sur la réouverture du Puy du Fou. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est le lobbying d'un seul pour un parc dont il en tire des revenus, et que parce qu'il a le numéro du téléphone du président de la République, il est capable de faire rouvrir son parc, moi je m'inquiète que ça soit le point de départ. Je préférerais qu'on ait d'abord une visibilité globale, et effectivement qu'on parle au syndicat de restaurateurs, et qu'on voit comment on peut, avec la crise, mettre en place une économie, remettre en place une activité. Ça me semble quand même la meilleure méthode. Donc attendons de voir, parce que pour l'instant, annonce officielle, et je crois que les restaurateurs, les professionnels du tourisme, ils ont besoin d'une visibilité avec des certitudes. Ça ne change pas du jour au lendemain, et on dit finalement, vous avez ouvert le 2 juin, et puis refermé le 12. Enfin, il faut qu'à un moment, on sache exactement ce qu'on fait. Quand on le met en place, ça dure.
Voilà. Autre chose qui va ouvrir, c'est le conseil municipal Gapensé, puisque c'est cette semaine que l'installation aura lieu, c'est jeudi prochain. Qu'est-ce que vous attendez du futur maire de Gap?
Bon, pas grand-chose, parce que je le connais. C'est-à-dire que on l'a déjà eu précédemment. Donc, je vais vous dire, à moins d'une révolution, je crois qu'on ne peut pas attendre grand-chose en termes de changement.
Vous lui faites un procès d'intention, donc, avant démarrer.
Non, mais si vous voulez, c'est compliqué. Hein, vous savez, quand les gens sont dans la continuité, c'est difficile de penser qu'ils vont changer. J'espère que, en fait, la crise par laquelle on est passé va faire réagir l'ensemble des locaux, notamment sur des enjeux qui sont des enjeux de long terme. Là, vous savez, on a parlé, par exemple, de la question de l'industrie au niveau national ou européen. On en a beaucoup parlé pendant cette crise. Pendant toute la campagne électorale, nous, avec Ambition pour Gap, on a répété souvent que, par exemple, il fallait se réapproprier la question des biens communs. La question de l'eau, par exemple, de savoir si on doit continuer à faire gérer l'eau par une entreprise extérieure ou si, comme c'est un bien public, il faut le remettre en régime municipal. Je crois que c'est un vrai enjeu, parce que l'avenir de la qualité de l'eau, de la santé des populations, de savoir si demain cette eau va devenir un enjeu de financiarisation, eh bien, c'est capital pour une population. Et je pense qu'il faut se la poser dès aujourd'hui. Je tire le trait sur la crise qu'on a vécue et ce sujet de l'eau, parce que tous ces sujets de santé, ils doivent être regardés aussi au niveau local. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour faire changer justement une situation qui part quand même un peu en vrille, c'est-à-dire qu'on sent bien que le changement climatique, il a des conséquences à court et à moyen terme maintenant, et qui sont visibles et que l'on va avoir devant nous. Donc si on ne change pas nos habitudes, si on ne change pas notre façon de penser et notre façon de faire, on va avoir des situations graves. Donc la question de l'eau, par exemple, elle doit revenir municipale, parce que c'est un enjeu capital. Puis après, il y a tous les enjeux de circulation, de vélo. Bon, alors, vous avez toutes ces villes qui ont mis des pistes cyclables en place, même temporaires, mais des kilomètres et des kilomètres par ville, il n'y en a pas un seul kilomètre supplémentaire à Gap. C'est pour ça que je peux vous dire que je ne crois pas qu'il ait tellement changé avec la crise, sinon on aurait vu des choses différentes. Quand vous fermez vos marchés aux agriculteurs bio, comme c'est le cas à Gap, pour ne mettre que des agriculteurs conventionnels, c'est que vous n'avez pas compris aussi qu'à un moment, il faut changer notre mode d'agriculture.
Le marché bio, le marché bio existe toujours.
Oui, le vendredi après-midi. Mais oui. Ça veut dire qu'effectivement, les gens qui achètent bio, il faut qu'ils prennent en vendredi après-midi pour faire des courses. C'est quand même un peu... C'est original comme interprétation.
Mais il a toujours été en place. On n'a pas attendu le confinement pour avoir ce marché bio.
Oui, mais le samedi et le dimanche, vous aviez des producteurs bio sur le marché, au même titre que tous les autres producteurs. c'est très bien d'ailleurs de continuer ainsi. On a fermé le marché aux producteurs bio le samedi matin, qui est sans doute le marché où il y a le plus de monde qui peut venir. Je le connais, Roger Didier, et je sais que ce ne sont pas ses priorités. Peut-être, et je crois que ça serait sain, il faudrait que ça le devienne. Après, il va y avoir un enjeu qui est quand même important pour tout le monde, qui est qu'aujourd'hui, les maires qui ont été élus au premier tour, dans des circonstances incroyables, ça veut dire que l'ensemble des élus, et nous aussi, opposition, avons un problème de légitimité globale. Elle est sérieusement, cette légitimité, affaiblie par le contexte électoral dans lequel ça s'est déroulé. Et donc l'élection du maire jeudi et de ses adjoints devra aussi prendre en compte cette situation. Et j'espère que Roger Didier se rend compte qu'il a été mal élu. Et donc ça veut dire derrière qu'il doit prendre en considération aussi tous ceux qui, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils étaient dans une situation complexe, ne sont pas venus voter. Et qui aurait pu peut-être avoir un résultat différent. Donc, j'invite Roger Didier à être humble en tant que maire, parce qu'il y a assez peu de doute que ça sera lui qui se fera élire au conseil municipal jeudi.
Eh bien, on verra ça jeudi. Rendez-vous donc au Quattro, puisque la réunion aura lieu.
C'est à huis clos.
Et donc, aura lieu, absolument, au Quattro. Merci.
Du coup, la population ne peut pas venir assister, contrairement à d'habitude, aux conseils municipaux. Effectivement, ce qui est dommage aussi pour la démocratie. Mais
oui, il y en aura quelques-uns. Il y a quelques personnes qui seront autorisées dans la mesure mesures sanitaires, justement.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup, Christophe Pirel. Et à une prochaine fois. À bientôt.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir. Alpe 1, près de chez vous.